Voici que vient le jour du Seigneur brûlant comme la fournaise. Tous les arrogants, tous ceux qui commettent l'impiété seront de la paille. Le jour qui vient les consumera, dit le Seigneur de l'univers. Ça, c'est Malachie. Et ben, Jésus fait écho au prophète Malachie en détaillant bien davantage ce que sera la fin des temps, et c'est la méditation à laquelle nous sommes conviés, et ça jusqu'à Noël, finalement. Jésus contemple ce temple, et surtout ses disciples. C'est le propre des hommes d'admirer l'œuvre des hommes, les grandes pyramides autrefois, et puis les grands immeubles de nos jours, ces grandes tours là, qui reflètent le soleil, symbole de toute la puissance économique, la prospérité technologique de notre monde. Le temple sera détruit, voilà ce que dit Jésus. Ah oui, tous ces ex-voto, toutes ces jolies pierres, etc., bah, tout cela sera détruit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bien plus généralement que le temple historique de Jérusalem, qui sert de point de départ symbolique à la réflexion de Jésus, toutes les œuvres humaines sont promises à la destruction. Tout ce qui sort de nos mains ne demeurera pas éternellement. Et on le voit tout au long de l'histoire. Tout ce qui est construit finit toujours, au moins, par être recouvert par la poussière. La terre absorbe tout, le temps réduit tout en poussière. Le sort universel est celui du relatif. Contrairement, en opposition à l'absolu qu'est Dieu, ce qui sort de nos mains, c'est toujours relatif. Et on peut dire qu'au moment de la mort, eh bien, la vérité triomphe et triomphera toujours, eh bien, de toutes nos constructions, et pas seulement matérielles, de nos constructions mentales, intellectuelles ou affectives d'ailleurs. Toutes les constructions religieuses, toutes les constructions philosophiques par lesquelles les hommes essayent de se forger leur propre petite religion du salut, ou de la consolation en tout cas. En disant, bah, il n'y a rien derrière, on sera absorbé par le néant, on ne sentira plus rien, ce sera bien. La vérité va balayer tout cela. Tous ces temples qui ont été édifiés dans des pseudo-certitudes sera balayé. Dans son discours, quand il commence à détailler maintenant, après cette introduction, eh bien, il commence justement par les faux prophètes. Les faux prophètes qui exprime bien toutes ces pseudo-vérités sur lesquelles les gens aiment à se reposer pour ne pas agir, pour ne pas grandir, pour ne pas être purifié, transfiguré par la vérité. Mais la vérité triomphera. Méfiez-vous de ceux qui viennent en mon nom, méfiez-vous de tous ces faux prophètes, dit Jésus. Et il les met et tout de suite avec, dans le bloc, des guerres et des discordes. Vous voyez, ces faux prophètes, ils expriment le gauchissement de la vérité. Et le gauchissement de la vérité, on le voit à travers l'histoire, on le voit bien aujourd'hui, en particulier à cause des médias, à cause du fait que là, on est aux premières loges pour observer toutes les manipulations et les trucages. Eh bien, ce gauchissement de la vérité conduit aux guerres et aux discordes. Il conduit, eh bien, forcément au chaos. Parce que ce qui tient le monde, ce qui tient les sociétés humaines, ce qui tient les familles aussi, qui viennent à la fin du passage, eh bien, c'est la vérité. Et la vérité rime toujours avec amour, mais là, c'est vraiment le thème de la vérité qui est mis en avant. Le jugement dernier est fondé sur sa lumière. Les guerres. Ensuite, le second mouvement du texte, Jésus nous parle des guerres et des fléaux cosmiques. Il ne détaille pas autant que Matthieu, mais déjà il en donne un certain nombre. C'est la phase qui constitue l'intensification de la phase précédente, en quelque sorte. L'intensification du rejet de la vérité hein, dans tous les domaines, religieux bien sûr, mais dans tous les domaines. Vous voyez, morale, éthique aujourd'hui, avec le gender, avec toutes ces demandes de libération des mœurs sous une forme ou une autre. Le relatif qui se construit, qui construit ces temples, eh bien, c'est les guerres et les fléaux cosmiques, c'est l'intensification de ces constructions, de ces multiplications cancéreuses à tous les niveaux, dans tous les domaines de la vie humaine. On arrive vraiment, selon Jésus, à ce moment-là, à la plénitude de ce qui est proprement apocalyptique, de ce que nous nommons l'Apocalypse, dans sa phase de chaos total. L'humanité est submergée par les ténèbres. Mais Jésus achève en disant « avant cela », donc avant ces deux périodes, apparemment, ou avant la précédente, l'intensification, on ne peut pas se situer exactement, mais avant cela, disons avant que commence l'œuvre et la multiplication des faux prophètes, eh bien, le chrétien sera un témoin de la vérité, parce qu'il sera persécuté. Et il nous dit, ne vous préoccupez pas de savoir ce que vous aurez à dire, eh bien, contre tous ceux qui vous accuseront, pourquoi tu ne suis pas le mouvement du monde ? Pourquoi tu ne penses pas comme les autres ? Pourquoi tu ne vis pas comme les autres ? Pourquoi tu n'approuves pas nos décisions ? Etc., etc. La communion. Eh bien, le témoin de la vérité, évidemment, ne peut pas communier aux valeurs du monde. Et Jésus nous dit, ben, c'est pas la peine de penser à votre défense. En d'autres termes, toute planification des persécutions est impossible. On ne pourra pas prévoir à l'avance comment ça se déchaînera contre les uns ou les autres. Faire des réserves ? Mais ça, non, même pas. Il n'y a pas de planification possible. On ne connaît ni le quand, ni le comment. Donc, vivons plutôt dans la foi aujourd'hui, et ça, c'est la véritable préparation, afin de pouvoir persévérer au moment de la crise. Et puis, il y a la famille, la crise de la famille que Jésus met sous nos yeux. Là, évidemment, c'est un contexte de persécution de type social, avec arrestation, tribunal, exécution. Mais ça veut dire aussi, plus généralement, plus spirituellement, eh bien, ça indique la crise totale de la famille, l'anéantissement de ce que devrait être la famille, un sanctuaire de l'amour. À travers cette crise de la famille, au moment de l'Apocalypse, eh bien, c'est Jésus demande à ses fidèles le dépassement de l'amour naturel. Trop souvent, même les prêtres se contentent de prêcher l'amour naturel comme modèle, comme vertu, puisqu'il y a ces vertus naturelles qui nous ont été données au moment de notre création. Et la morale est inscrite en nos cœurs, il est vrai. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffira pas pour résister au moment de l'épreuve. Il faut dépasser l'amour naturel pour accéder véritablement à l'amour surnaturel, à l'amour divin. Lui seul nous donnera la force de résister. Et la crise de la famille, donc qui se divise à propos de la vérité, jusqu'à rejeter certains de ses membres, eh bien, en est la parfaite expression. Matthieu, dans son discours, qui rapporte le discours eschatologique de Jésus sous une forme plus détaillée que Luc, nous dit « Face aux injustices, l'amour du plus grand nombre se refroidira. » Voilà, ça me semble donner l'exacte teneur de ce que nous observons déjà aujourd'hui. Plus les injustices augmentent, et plus l'amour se refroidit. Parce qu'il est fondé sur l'amour naturel. Et l'amour naturel est fondé sur l'exemple qu'on voit autour de soi. Et donc les contre-exemples, eh bien, nous font tomber, nous refroidissent notre cœur. Il faut donc un amour plus grand pour résister à tous ces scandales, à toutes ces injustices que nous constatons Il faut un amour qui soit véritablement surhumain, cet amour que Jésus nous a donné sur la croix. Et il conclut ici, la persévérance est la seule force que nous aurons face à tous les obstacles. La foi est la source de la vie. Alors voilà, on reconnaît dans toutes ces étapes, pas seulement le combat de la fin des temps, on reconnaît dans toutes ces étapes, eh bien, l'œuvre et l'action du péché, même plus atténuée, et l'action de la grâce dans nos propres existences. Alors, eh bien, prenons le remède qu'il nous donne, et pour ceux qui peuvent être dans des épreuves familiales très fortes, moi je pense à des gens qui se confient à moi, des personnes âgées qui sont complètement abandonnées par leurs enfants, dans une solitude horrible. Alors, je ne juge pas ni les enfants, ni les parents et leur éducation, etc. Mais quand on ne dépasse pas l'amour naturel, eh bien on est voué, au moment de la crise, et aujourd'hui elle est très grande, la crise de la famille, eh bien on est voué à pâtir de la solitude, à pâtir du rejet.